Paul Bourget, l'Indicatrice. Chapitre 1. À Paris, par une douce et tiède après-midi du premier printemps, sous les arcades de la rue de Rivoli, à l'angle de la place où se dresse la statue de Jeanne d'Arc. Il est 5 heures. La foule va et vient le long des devantures, bazar cosmopolite, autour duquel on doit une mêlée incessamment renouvelée d'automobiles et de fiacres, de bicyclettes et de coupés de maîtres. Cette cohue est si confuse, tant de faces se pressent et se croisent, que le plus fin limier de police ne saurait suivre quelqu'un dans cette foule. Voilà pourquoi Jules Bélière avait fixé ce lieu et cette heure à sa maîtresse. Il était là, contre la vitrine d'un confiseur, occupé en apparence à considérer de larges œufs coloriés qui annonçaient le voisinage de Pâques, et il n'avait de regard que pour l'énorme glace où se reflétaient des centaines de silhouettes mouvantes. L'impatience contractait son visage de joli homme. Il avait des traits menus, de larges prunelles brunes sur un teint pâle. Ses lèvres fines, combrées l'or d'une moustache légère, découvraient des dents d'une blancheur admirable. La sveltesse de ses 25 ans sauvait l'élégance un peu soulignée de sa mise. C'était celle d'un jeune homme riche et oisif. Mais un je ne sais quoi d'équivoque se dégageait de cette physionomie. Immobile ainsi et aux aguets, l'aventurier transparaissait sous le boulevardier avec une évidence qui devint effrayante quand Bélière aperçut, dans la glace, l'approche de la personne qui l'attendait. Un frémissement souleva les coins de sa bouche. Il se retourna et, avant d'aborder la jeune femme qui venait à lui, ses yeux plongèrent dans la foule regard circulaire dont l'inquiétude cruelle ne ressemblait guère au trouble amoureux, appréhendant une curiosité indiscrète, et sa première phrase à la retardataire ne trahissait non plus aucune sorte d'émotion tendre. « Il y a 20 minutes que je t'attends, Adèle, et les mouches. Tu sais ce que je t'ai dit. Si jamais l'on me chauffe, tu seras servie avant. On ne me charrie pas, moi. » Il avait prononcé d'une voix dure et sourde ces mots d'argot des voleurs qui, à eux seuls, dénonçaient sa profession. Les amants s'étaient mis à marcher l'un à côté de l'autre sans se donner d'autres signes de reconnaissance. « Je ne peux pas faire la femme de chambre, répondait Adèle, et aller et venir comme je veux. Ma patronne m'a sonné quand je sortais. Tiens-tu à ce qu'elle prenne des soupçons ? Et puis, si tu crois que j'ai peur de toi, tu te trompes. C'est le 9e coup que je monte pour vous. Ils ont tous réussi et toujours pour être traités comme une marmite. J'en ai assez. Je te répète, j'en ai assez. » La malheureuse s'était exaltée en parlant ainsi. Les éclats de sa voix et les véhémences de son geste firent sans doute peur au bandit. « Es-tu gosse, mon amour ? » dit-il câlinement. Son masque s'était transformé comme son langage. Un charme émanait de lui, maintenant, qui expliquait trop cet affreux esclavage de complicité. Les lignes délicates du visage d'Adèle, sa façon de porter la toilette, démentaient si évidemment cet ignoble rôle d'indicatrice. C'était le dernier chapitre d'un tragique roman que cette dégradation, et d'un roman qui tenait encore au plus intime du cœur de la pauvre femme, car le changement d'accent de son redoutable compagnon la fit tressaillir. Il continuait. « J'ai eu un moment de colère, c'est vrai, mais je t'aime. J'ai vu que je t'avais fait de la peine et cette colère a passé. Si j'ai peur d'être arrêté à présent, tu ne comprends donc pas que c'est pour toi ? As-tu oublié notre projet de nous en aller tous les deux dès que cela sera possible, loin, bien loin ? Tu ne te souviens plus de ce que je t'ai raconté de mes souffrances, ni comment je suis prisonnier de cette horrible vie ? Quelles paroles tu as employées, mon Adèle, pour me punir d'un moment d'énervement ? Dis-moi que tu les regrettes, dis-le ! » Puis, comme la jeune femme se taisait toujours, il lui prit la main qu'il serra d'une étreinte douce, lui infusant ainsi la suggestion de sa volonté. Avec cette espèce de flair animal des hommes qui savent se faire aimer, il comprit que ce pauvre être, dont il sentait depuis quelque temps se réveiller, se débattre la conscience, était toujours à lui. Elle l'avait tant aimé. Il avait exigé d'elle et obtenu tant de sacrifices, depuis l'abandon de son foyer jusqu'à cette aide donnée à ses crimes. Adèle avait eu la jeunesse que sa jolie et fine physionomie annonçait. Elle était la fille de petits bourgeois, d'une parfaite honorabilité. Son père était mort sous-chef dans un ministère. Elle-même avait épousé un commerçant, un monsieur Baron, gros marchand de toile de la rue Bertin-Poiret. Disons, non pas pour excuser, mais pour expliquer les aberrations de cette destinée, que ce mari avait été brutal pour sa femme, qu'elle n'avait pas été mère et qu'elle n'avait rien soupçonné du véritable métier de Jules Bellière, alors modeste employé dans une banque, officiellement. Le hasard d'une visite à la campagne, chez des amis communs, les avait fait se connaître. Le jeune homme avait raconté à la jeune femme une histoire à moitié vraie, sa vocation d'artiste contrariée. Elle était devenue sa maîtresse. Une dénonciation anonyme, dont Adèle ne devait jamais savoir qu'elle émanait de Jules lui-même, avait averti le mari qui avait chassé sa femme. 8 jours après, Jules lui annonçait qu'il avait commis un détournement à son bureau et perdu sa place. Soi-disant, il avait volé pour elle. Et elle l'avait cru. En réalité, le scélérat faisait dès lors partie d'une association de malfaiteurs auxquels il fallait des complices femelles pour opérer d'une façon plus sûre. On aura l'idée de la nature de cette complicité quand on saura que le coup auquel il avait été fait allusion dans cette conversation des deux amants était le suivant. Adèle s'était placée par une agence chez une américaine en qualité de femme de chambre sous un nom supposé avec des certificats dérobés à une vraie domestique. Le rendez-vous pris sous les arcades de la rue de Rivoli avait pour motif une indication définitive à fournir à Bellière, dit le fionneur, pour le cambriolage du coffret à bijoux de cette dame. Adèle en était descendue là en 2 années. Quoi d'étonnant si l'indignement qu'il avait avili à ce degré croyait à sa souveraine puissance sur ce cœur faible. Aussi, un sourire de triomphe errait-il sur ses lèvres mauvaises, tandis qu'elle répondait « C'est moi qui t'aime, Jules. Tu as trop abusé de mes sentiments pour ne pas les connaître. Tu te plains d'être prisonnier de ta vie. Qui nous empêche de nous en aller dès maintenant? Je te l'ai proposé 20 fois. Passons aux États-Unis. Personne ne saura qui nous sommes. Tu travailleras et moi aussi. » « C'est impossible, interrompit-il, en ce moment du moins, et tu le sais bien. » « Quand alors ? » implora-t-elle. « Quand notre fortune sera faite, répliqua-t-il âprement. « Elle peut l'être cette nuit, si cette affaire des bijoux de Madame Risley réussit. « As-tu essayé sur la serrure de la boîte les doubles clés que nous avons fait fabriquer ?»« Je les ai essayées, répondit-elle. « Et tu es sûre que le collier de perles y est et qu'elle ne le mettra pas ce soir ?»« J'en suis sûre. Elle dîne à Neuilly, comme je te l'ai écrit, chez son ancienne institutrice, et elle m'emmène. » « Nous partirons à 7 heures. Voilà ce que je suis venu te dire. Nous ne rentrerons pas avant minuit. Le bon moment, c'est 8 heures, 8h15. »« C'est compris, repartit le fionneur. À 8 heures, j'arrive à la porte de l'hôtel Beaucite qui donne sur la rue Saint-Honoré. Si l'on me demande où je vais, je nomme Madame Risley. On me dit qu'elle est dans la succursale rue de Rivoli. Je prends le passage intérieur, le premier couloir à droite. » Je monte 2 étages, j'arrive devant la porte du 67. Elle n'est pas fermée. Il y a une antichambre, un petit salon. Le coffret à bijoux est dans l'armoire de la chambre à coucher. Tu as mis la clé sous le tapis du lit. C'est bien cela ?
C'est cela, répondit-elle. Et tremblante, promets-moi, si tu rencontrais quelqu'un, par exemple une des filles de l'hôtel, tu t'en irais. Tu trouverais une explication, tu ne...
Et plus bas,
« je ne supporterai pas d'avoir été mêlée à un meurtre. Le reste est déjà si dur !»«
Sois bien tranquille, » répondit le brigand avec une bonhomie sinistre. « Tu ne risqueras pas d'être encore raccourci pour cette histoire-là. Tout se passera en douceur. C'est notre manière. Et d'ailleurs, une supposition que nous ayons un mauvais coup à donner, mon costaud ou moi-même, ce ne serait que pour nous défendre et nous nous ferions couper le cou sans plus te nommer que tu ne me nommerais, moi, si tu étais prise. Tu me nommerais, moi, réponds.
Jamais, dit-elle en le regardant avec une expression où se lisait cette fidélité dans le danger, honneur dernier des complices d'infamie. Bélière parut éprouver un soulagement à cette protestation ainsi provoquée. Puis, comme s'il songeait qu'un plus long entretien n'aboutirait qu'à éveiller de nouveaux et inutiles scrupules chez une femme déjà lasse de son esclavage, il la quitta brusquement. « Je vois au coin de la place deux lascars à tête de casserole. Quand le Chopin sera fait, il faudra que tu ouvres l'œil et le bon. Mais on s'écrira comme on doit s'écrire. Et cette fois, c'est la dernière affaire. Allons, mon Adèle, un béco et du courage. » Il l'avait entraînée en parlant ainsi du côté de l'église Saint-Roch, dans la ruelle déserte qui longe le cœur. Il la prit dans ses bras d'une vive étreinte. Leurs lèvres s'unirent. Cette caresse de 2 secondes suffit pour que la jeune femme, en s'en retournant du côté de la rue Saint-Honoré, sentit courir dans sa chair ce venin de passion qui, depuis ces 2 mortelles années, faisait d'elle la chose de cet apache élégant, aussi implacable, aussi vil sous son harnais de fils de famille, que les souteneurs de barrière, avec leurs hautes casquettes, leurs accroche-cœurs et leurs vestes courtes sur leurs pantalons bouffants.